RCF.
Christophe Maury, vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à Charles de Foucault, Pèlerin de l'Éternel, paru chez Pygmalion, et nous évoquons donc cette grande figure du frère universel qu'on pourra donc désormais appeler Saint Charles de Foucault. En attendant, Charles, eh bien, il a un véritable coup de foudre pour l'Algérie en particulier. Il est dans le cadre militaire, ensuite il va en Tunisie, et puis, malgré tout, il démissionne de l'armée. Alors, il démissionne plusieurs fois, il hésite, il se cherche. On sent qu'il a du mal à trouver sa place et un sens à sa vie, en fait.
Oui. Est-ce qu'il est perdu? On ne sait pas. Il est plein de certitudes. Il est plein d'envie, il est plein d'énergie. Et donc, en 82, il est séduit par l'Afrique du Nord, il démissionne de l'armée, il s'installe à Alger pour préparer scientifiquement un voyage. Il apprend l'arabe, il apprend l'hébreu.
Je fais juste une petite parenthèse.
Sur ses fiançailles.
Sur sa soi-disant vie de débauche, on a parfois dit que Charles de Foucault, lorsqu'il était à l'armée, enfin militaire, vous l'avez dit... Il aimait bien la bonne chair, voire la chair C-H-A-I-R. Dans votre livre, vous dites que faut peut-être pas exagérer non plus.
C'était... Mais ça passionne tout le monde, cette histoire, parce que plus il a une vie de patachon, plus la
conversion
sera énorme. Et ça arrange tout le monde pour parler de la morale sexuelle et que lui, il a fait son chemin, etc.
Bon, donc
et
les coucheries de Charles de Foucault...
Et s'il n'y en avait pas eu? Il va être amoureux de Mademoiselle Titre, la fille du commandant Titre. Donc, il va se fiancer avec elle. Il va ensuite revenir en France, voir sa famille, Marie de Bondy, dont nous allons parler, Marie de Blic, sa sœur, pour demander l'autorisation de se marier. Et après 3 mois de pèlerinage dans sa famille, on va lui interdire de se marier.
Mais c'est en quelle année, ça?
C'est juste avant le voyage au Maroc.
Parce qu'entre-temps, il y a quand même eu un concubinage qui a fait grand bruit dans l'armée, où on lui a demandé à plusieurs reprises de quitter cette femme avec qui il est arrivé à Alger.
Sur le bateau, Mimi. Mais on ne sait pas si Mimi l'accompagnait vraiment ou si elle accompagnait l'escadron, vous voyez. Toujours est-il que Mademoiselle Titre, elle va mourir très très vieille et elle va raconter que ses fiançailles étaient extrêmement spirituelles avec Charles de Foucault. Ils allaient à la messe tous les jours pour prier pour leur mariage. Est-ce que vous pensez vraiment que Charles de Foucault, s'il avait couru tous les bordels de la ville, aurait pu être avec Mademoiselle Titre à la messe tous les jours pour préparer son mariage et ses fiançailles? C'est ce qu'elle dira jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsque j'en ai parlé à un certain nombre d'experts de Foucault et de collègues, j'ai dit « oui, mais ce n'est qu'un témoignage ». Mais alors je veux, moi, les témoignages de la vie de Patachon, je n'en ai pas trouvé. L'histoire de Mimi, il y a aussi l'histoire d'une fille qui serait montée dans une malle dans la chambre à Ginette, bon, planquée dans une malle. Mais est-ce que ça veut dire forcément que c'était une débauche? En revanche, parce qu'il avait de l'argent, parce qu'il avait une espèce de complexe de provincial, son accent, son obésité, qu'il ait régalé toute la chambrée avec du champagne, qu'il s'est fait faire des bottes sur mesure et qu'il vivait grand train, oui. Et on en a des témoignages. Et on comprend toujours, c'est la radicalité. Quand il va devenir plus pauvre que les plus pauvres. Bon, donc en 82, il est séduit par l'Afrique du Nord. En 83-84, il parcourt clandestinement le Maroc.
Dans quel contexte engage-t-il ce périple qui est quand même, là, je parlais de romanesque pour débarrer
alors,
ses entretiens.
Le Maroc, le Maroc est un pays complètement fermé dont nous n'avons pas la cartographie. Donc, en se déguisant en juif, il peut passer partout. Et il planque dans sa manche, alors ça c'est hyper romanesque, il planque dans sa manche un petit carnet de 5 cm sur lequel il note des tas de choses, il fait les relevés topographiques, il a un sextant et il va faire le premier, la carte du Maroc.
Pour des géographes en fait, c'est une
Exactement.
Entreprise scientifique.
Exactement. Il est scientifique, il est géographe, il va avoir le prix de la Société de Géographie, il va être reconnu comme tel.
Mais il est vraiment déguisé en juif?
Ah oui, il est comme Mardoqué qui est rabbin et il passe de communauté juive en communauté juive où ils sont reçus, ils peuvent avoir le couvert et le coucher.
Et donc ses travaux sont remarqués. Il faut dire qu'il parcourt en un an environ 3000 kilomètres et qu'il fait des croquis, il fait des relevés, il prend tout un tas de notes qui vont être donc très très précieux.
Et ça va être fondamental pour la connaissance du pays. Il va, encore une fois, être très honoré à son retour, lorsqu'il y a la publication de son itinéraire au Maroc, avec les cartes, et puis avec surtout comment vivent les gens, comment sont habillés les gens, à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils se couchent. Enfin,
c'est de l'ethnographie, quoi.
C'est de l'ethnographie, et c'est de l'anthropologie, c'est de la géographie, et c'est tout à fait passionnant.
Et puis, en 1884, à l'issue de ce périple, eh bien, il rentre à Paris et là, il se rapproche de sa famille. Qui sont les membres de cette famille dont on pourrait penser qu'elle est quand même très, très réduite, puisqu'il est orphelin, qu'il a perdu son grand-père?
Ils sont très, très nombreux. Mais le plus important, c'est Marie de Bondy.
Sa cousine.
Marie de Bondy, c'est sa cousine chérie. C'est son amour. C'est la femme qu'il aime et elle, elle l'aime aussi.
Ils s'aiment, c'est-à-dire ?
Ils ont un irrépressible besoin de la présence l'un de l'autre.
Ils ont envisagé de faire leur vie ensemble, de se marier ?
Non, elle est mariée. Elle est mariée, Marie de Bondy. Mais elle aime son cousin. Voilà. Et lui, il aime sa cousine.
Charles de Foucauld à Paris, Charles de Foucauld dans un contexte familial chrétien, catholique,
plus que chrétien,
croyant.
Plus que croyant, Véronique, parce que là maintenant, il rentre du Maroc, il vit dans un petit appartement dans le 8e arrondissement du côté de Saint-Augustin pour être pas loin de Marie de Bondy, sa cousine. Il dort par terre, hein. Il dort par terre, il n'a pas de meubles, il n'a que des souvenirs très exotiques du Maroc qu'il a rapportés ou d'Algérie qui sont au mur. Et il va déjeuner ou dîner pratiquement tous les jours chez sa cousine Marie. Et Marie de Bondy fait venir assez régulièrement l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin, c'est un des vicaires de Saint-Augustin. C'est pour moi un saint. Il est né à Colmar en 38. Il a donc 20 ans de plus que Foucauld. D'une famille bourgeoise, libérale, son père est fonctionnaire. Sa mère meurt de la tuberculose quand il a que 10 ans. Il grandit dans l'ombre d'un grand-oncle mort qui serait saint, toujours est-il que il veut rentrer au monastère, ou du moins, il veut rentrer au séminaire. Son père refuse, lui demande de faire des études, donc Huvelin va rentrer à Normale Sup, rien que ça, il va en sortir avec 3 agrégations de lettres, de grec et de philo. Et il a 24 ans, il part pour le séminaire français de Rome. Il fait une licence de théologie, il renonce finalement à la trappe, pour atténuer le chagrin de son père, on imagine. Les deux hommes vivent ensemble, rue Richier, à Paris. Et il devient, lui, vicaire de Saint-Augustin en 1875. Et il va y rester 35 ans. Alors, son appartement est totalement bourré de livres. Les gens font la queue pour venir le voir. C'est un prédicateur incroyable, un immense confesseur, un épistolaire prolixe. Il grave sa parole dans les cœurs. C'est vraiment un type formidable. Et puis, il a une maladie qui fait que son menton touche son épaule et il est un peu paralysé comme ça. Donc, il n'est pas très agréable à voir, mais tellement formidable à écouter. Et il reçoit, rue Laborde, chez lui, il reçoit très souvent Alité. Alors, on le prend un peu pour le curé d'Ars, ce qu'il refuse. Il n'aime pas du tout cette comparaison. Mais il va convertir, entre autres, Littré, et oui, Émile Littré, le lixographe positiviste athée, et Littré fera même baptiser sa fille Sophie par le même abbé Huvelin. Alors, il y a ce dîner chez Marie de Bondy, où il y a Huvelin et il y a Foucauld. Et à un moment donné, Foucauld dit, moi j'ai quand même quelques questions sur tout ça, et Huvelin lui dit, venez me voir demain. Quand il arrive le lendemain, tout le monde se pose la question en disant, mais pourquoi il se présente pas? Tout de suite, Huvelin lui dit, confessez-vous, et après communiez. Mais de façon très autoritaire. Et il a compris que Foucauld avait besoin d'autorité. Et avait besoin d'être extrêmement cadré. Ils se connaissent, forcément. Et ils se connaissent d'où? De chez Marie de Bondy.
Et
donc,
qu'est-ce qui se passe?
Il arrive, et Huvelin lui dit, confessez-vous. Et il se confesse, et après, allez communier. Allez, communie. Et quand il sort sur le parvis de Saint-Augustin, il se dit, mais finalement, si Dieu est l'affaire la plus importante qui soit, la plus absolue, ben, il n'y a que lui qu'il faut suivre. Et si Dieu est l'absolu, il faut le suivre dans l'absolu.
Mais est-ce qu'il a fait une rencontre? Parce que ça pourrait n'être qu'une idée. Il pourrait sortir de cette expérience avec une très belle idée philosophique. Est-ce que...
Alors, c'est une très belle idée philosophique que vous reprenez. Vous avez raison. Et c'est tout à fait, c'est tout à fait ma thèse. C'est que pour le moment, c'est une conversion qui me semble...
Intellectuelle.
Intellectuelle. La véritable conversion qui va être extraordinaire viendra beaucoup plus tardivement.
Il s'en ouvre à quelqu'un et sa vie change de manière radicale et subite?
Ah ben alors carrément, parce que il va traîner un peu chez sa sœur, commence à penser à la vie religieuse, et puis il va multiplier les retraites. Et il se dit finalement, suivre Jésus, ben, il faut aller là où il était, où est-ce qu'il était? Il était en Terre Sainte, il était à Nazareth, et ben allons donc à Nazareth. Et il veut vivre la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth.
Et c'est comme ça qu'il va se retrouver dans une petite maison chez les Clarisses de Nazareth.
Mais vous rigolez, c'est une cabane qui est grande comme votre placard. Je l'ai vu, hein, j'y suis allé pour aller voir. Et c'est... Alors, il arrive. Ben, les sœurs connaissent pas ce type qui n'est pas habillé en religieux, puisqu'il n'est pas religieux. Et il commence à faire des travaux de jardin. Et il dit, ben, je peux vous aider. Mais contre un peu de pain, bon bah très bien, bah vous prenez la cabane au fond et il va vivre dans la cabane au fond. Il va faire des petites images pieuses qu'il va écrire, qu'il va colorier et puis il va transmettre tout ça aux sœurs qui le trouvent vraiment très sympathique.
À demain.
À demain.
Merci.